Chinon sur Radio Armada.
Bonsoir, bonsoir, chers amis de la radio Armada. On est mercredi, il est 18h, et donc vous êtes en direct avec la revue de détail présentée par votre chroniqueur politique Jean-Pascal. Revue de détail, c'est pendant une demi-heure l'actualité des réseaux sociaux décryptée spécialement pour vous. Et c'est donc toute une semaine d'actualité analysée sous l'angle politique critique, hein, c'est notre feuille de route de la radio, qui s'avise des pouvoirs en place. Et cette semaine, le thème c'est « À quand la reprise, bordel ?» point d'interrogation. Alors, on va commencer avec la traditionnelle rubrique argent, et on va parler des salariés de l'entreprise prêt-à-porter Camailleux, un spécialiste de l'habillement féminin qui est une victime directe selon la direction de la crise du Covid-19. Ces salariés ont manifesté samedi dernier devant un magasin à Lille. L'entreprise, donc, qui emploie 3900 salariés en France, dont 450 au siège social à Roubaix, dans le Nord, elle a été placée en redressement judiciaire fin mai. Mais que l'on se rassure, selon l'AFP, le gouvernement affirmerait être à la recherche d'un repreneur. Et bien, si c'est comme pour Dunlop, où le négociateur de l'époque, un certain Emmanuel Macron, était à la manœuvre sous le gouvernement Hollande, on va pouvoir attendre la fermeture définitive, s'entend. Alors, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il a déclaré jeudi 11 juin dernier son souhait, je cite, que l'activité économique reprenne au plus vite et retourne à la normale cet été. Alors que le président de la République Macron s'est exprimé dimanche sur la suite du déconfinement. Au passage, une intervention qui ne nous a rien appris, et pour cause, la réouverture des cafés et restos, c'était inévitable. L'autosatisfaction sur sa gestion de la crise, inévitable aussi. La seule info, en fait, c'est travailler davantage au même prix, aurait-on pu rajouter. Ça nous rappelle les années 2010, un certain président travaillait plus pour gagner plus, pas vrai? Alors Bruno Le Maire a également dit, je le cite, « Je vise au rythme des annonces de faillite, de licenciement, je pense à tous les Français ». Voilà ce qu'il a dit sur LCI, alors que près de 500 000 emplois nets ont été détruits pour le seul premier trimestre 2020. Mercredi dernier, c'est de son côté la porte-parole du gouvernement qui avait fermé la porte à toute accélération du déconfinement, comme le réclamait notamment le MEDEF, et comme l'avait évoqué le secrétaire d'État au tourisme. Le MEDEF demandait en effet une accélération du déconfinement. Sur LCI jeudi dernier, la vice-présidente et porte-parole de l'organisation patronale, Madame Dominique Carlac, avait appelé le gouvernement à annoncer dès maintenant le plan de relance prévu pour la rentrée. Je la cite, « Il ne faut pas lancer les plans de relance en septembre, c'est maintenant qu'il faut tout lancer en même temps, et pas secteur par secteur, a-t-elle estimé. Ben voyons, le nouveau monde qui vit au rythme des chômeurs et dit non au patronat, ben on n'y comprend plus rien. D'ici qu'il recrute Poutou, le candidat du NPA présidentiel, comme prochain Premier ministre, c'est vraiment n'y plus rien comprendre. Alors on est sur la rubrique suivante, que vous connaissez bien, les empaffés du PAF, le paysage audiovisuel français. On va parler de Cyril Hanouna. Son équipe est formelle dans l'émission « C'est que du kiff ». Les chroniqueurs, ont tous défendu Neymar, joueur de foot accusé d'homophobie. Au Brésil, de fait, Neymar refait les gros titres la semaine dernière après la publication d'un enregistrement audio où il insulte copieusement Thiago Ramos, le jeune ex-petit ami de sa maman, avec force qualificatif homophobe. Ben, cela n'a pas empêché Hanouna de faire savoir que l'attaquant du PSG était, je cite, un amour de mec qui ne refuse jamais une photo avec les enfants, c'est quelqu'un de sympa. Fin de la citation. Eh bien, quand on connaît l'émission concernée, quand on connaît son animateur et surtout son public, on ne peut que penser qu'on a les soutiens que l'on mérite. No more comment. Pendant la crise du coronavirus, M. Michel Simès a souvent été invité à la télévision pour donner son avis sur la maladie. Il a même consacré une émission spéciale au virus sur France Télévisions. Mais le médecin a beaucoup été critiqué par la suite, accusé d'avoir fourni des informations incomplètes ou erronées. Et pour les chroniqueurs de C8, Mathieu Delormeau, qui n'a pas mâché ce mot à l'encontre du médecin, je le cite, « Dès qu'il y a un micro, il parle de Simès, et là, c'est tellement beau, poursuit le chroniqueur, quelqu'un qui s'excuse, quelqu'un qui dit, j'ai dit des bêtises, j'ai parlé un petit peu rapidement, je regrette, je ferai plus attention la prochaine fois. » Il aurait en fait été sympathique, ça aurait été un héros. Ben non, il a dit des conneries. Et selon lui, selon le chroniqueur, cela s'explique parce que, toujours Simès, il a pris tous les symptômes de l'animateur et du mauvais animateur. C'est que maintenant, effectivement, il a un ego comme ça. Et de conclure, quand on l'ouvre trop, on finit par dire des bêtises. Fin de la citation. Reste donc à savoir qui des deux l'ouvre davantage que l'autre, pour reprendre leurs propres mots. Et bon, on va s'offrir notre première pause musicale avec un titre de circonstance chanté par les Charlots, le générique du film de François Ruffin, Merci Patron. On l'écoute, on se retrouve juste après.
Ah, ah oui, humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse, le temps d'enfiler est noble. Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tout de bonheur.
Ah, 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 ah oui.
Humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. La, 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 yeah.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
De travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron,
merci patron,
merci patron,
merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes.
Ah, 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 ah oui.
Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges.
Like la, like la, yeah. Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux. Merci patron,
merci patron,
merci patron,
merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Oui, c'est ça.
Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir.
Ah, 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 ah oui.
Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle et nous nous occuperons de vos ennuis de patron.
Like it, like it, like it. Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
À vous le plaisir de travailler pour nous.
Vous êtes
heureux comme un fou.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Ce que vous avez fait pour nous,
nous le referons pour vous.
Like it, like it, like it.
Mon patron est plus grand que le
tien. Mais il est plus petit que le jardin de ma tante.
Voilà, eh bien, on reprend notre émission avec la rubrique suivante, qui est la rubrique internationale. On va aller aux USA. Donald Trump imposerait une clause coronavirus pour ses meetings. Ça ne s'invente pas. D'après la chaîne CNN, l'équipe de campagne du président américain a annoncé jeudi 11 juin que les participants au meeting du candidat républicain devraient signer une attestation sur laquelle est précisé qui ne pourront engager aucune poursuite judiciaire s'ils venaient à contracter le coronavirus lors de l'événement. Ça ne s'invente pas. Les participants sont invités à confirmer leur présence à l'événement en s'inscrivant au préalable. Ils doivent accepter une clause de non-responsabilité stipulant qu'ils reconnaissent que, je cite, « le risque inhérent d'exposition au Covid-19 existe dans tout lieu public où des personnes sont présentes ». Fin de la citation. En fait, c'est l'annonce du meeting du 19 juin qui a suscité de vives réactions dans l'opinion publique. Dans un communiqué d'ailleurs relayé par le Figaro, son adversaire, le candidat démocrate Joe Biden, a accusé le président américain de ne pas prendre le virus au sérieux et de, je le cite, « tenter d'ignorer la réalité ». Alors imaginez ça chez nous, le FN interdisant l'accès à ces meetings aux porteurs du syndrome de Damas, maladie qui provient des séquelles de gaz toxiques balancées sur les populations. Imaginez Sarkozy exigeant de ses fans un certificat médical d'immunité contre les projections de vapeur du Karcher, ou alors le PS demandant un vaccin anti-allergie à la rose pour participer à ces meetings? On devrait en prendre de la graine, non? Alors plus sérieux, en Italie. En Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte a été entendu vendredi pendant près de 3 heures par un magistrat sur la gestion par le gouvernement de la crise du coronavirus. C'est ce qu'a indiqué son service de la procureure de Bergame, située au nord du pays, Maria Cristina Rota. Alors Bergame qui a été une des régions la plus impactée. La procureure l'a auditionné à la primature à Rome dans le cadre d'une enquête sur les retards en mars dernier dans la création de zones rouges dans 2 communes du nord du pays alors que l'épidémie explosait dans le coin. Mais depuis, le gouvernement central et les dirigeants de la Lombardie se rejettent la responsabilité de ce retard, retard qui a eu un impact dramatique avec la saturation du système sanitaire, avec la hausse de la mortalité et avec la progression du nouveau coronavirus dans cette région. Pour le ministre des Affaires régionales Francesco Boccia, la région aurait pu d'elle-même instaurer ces mêmes zones rouges, la loi l'autorisant. Toute la question en fait porte sur qui du gouvernement central ou de la Lombardie aurait dû, entre le 3 et le 9 mars, prendre cette décision. Alors chez nous, ce genre de problème a heureusement été évité. Le gouvernement a statué de façon unanime dans tout le pays. Et peu importe si la chloroquine soignait à Marseille et pas à Paris, il n'y a jamais eu de débat entre province et capitale chez nous. Pas vrai, tout juste des conflits d'intérêts, mais bon, comme l'argent n'a pas de frontières. On va en Indonésie maintenant, Indonésie où des enseignants sont sur les routes pour les enfants privés d'école. Chaque semaine, un Rikus Suroto prend sa moto pour se rendre dans le village isolé de Kenalan. L'enseignant parcourt des chemins tortueux de montagne pour donner des cours chez des familles de paysans pauvres du centre de l'île de Java, où la classe en ligne n'est pas une option, faute évidemment d'accès à Internet. Personne ne m'y contraint, mais quelque chose en moi me dit « je dois le faire », explique cet homme de 57 ans à l'AFP, avouant quand même se sentir un peu coupable de désobéir aux instructions officielles qui préconisent les cours en ligne et interdisent la classe en face à face. De nombreux autres enseignants sont aussi partis sur les routes, bravant le virus et parfois des pluies torrentielles et des chemins boueux, pour apporter leur enseignement à domicile aux 4 coins de l'archipel d'Asie du Sud-Est. On n'a qu'un mot pour eux, respect. Alors rubrique suivante, la rubrique « Il n'en rate pas une, il n'en rate vraiment pas une ». Invité d'Europe 1, l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a appelé Christophe Castaner à exprimer son soutien aux forces de l'ordre. Hortefeux considère, je le cite, que les récentes décisions et prises de parole du ministre ne peuvent que renforcer le malaise dans la police et la gendarmerie. Fin de la citation. Alors venant de la part de l'ancien ministre, de l'ex-président adepte du Karcher, celui-là même qui a supprimé la police de proximité et mis les flics dans la rue, en manif, pas sur le terrain, car il leur avait réduit les effectifs, ce qui lui avait valu à l'époque son surnom de Hortefeux le Boutefeux. Alors l'appel venant de ce personnage vaut son pesant de balles de LBD. Ne reste en fait à Castaner qu'à y faire appel comme consultant psychologue pour écouter les flics sur le divan et leur garantir son soutien contre les actes de violence et les propos racistes de certains. À moins que Macron ne remanie et n'appelle Hortefeux au gouvernement. On n'aura pas pire remarqué, alors pourquoi pas? Être certain n'en rate vraiment pas une. Alors on va parler d'Arnaud Montebourg, ex-ministre socialiste de l'économie, du redressement productif et du numérique, excusez du peu, sous le président Hollande. Montebourg qui est aujourd'hui entrepreneur, fondateur de la marque de miel Bleu Blanc Ruche, il était l'invité du grand entretien de Nicolas Demerand sur France Inter. Pour l'ancien premier employeur de Benalla comme chauffeur, je cite, « On ne sait plus ce qu'est la gauche a fait une politique de droite, j'en sais quelque chose, j'ai quitté le gouvernement sur des désaccords extrêmement profonds. » Et, je cite encore ce grand homme de gauche, « La gauche a enfanté Emmanuel Macron. » Fin de la citation. Alors que doit-on en déduire? Que la gauche enfante le libéralisme? Ou que le PS cachait en fait le libéralisme en marche. À moins que tout simplement, Monsieur Montebourg n'ait jamais su ce qu'est vraiment la gauche. Alors on revient au Covid-19, une nouvelle étude lit le premier tour des municipales au taux de mortalité. Selon deux chercheurs français, un lien entre la participation au scrutin et le taux de mortalité ville par ville est avéré. Nos deux scientifiques qui travaillent pour un institut économique allemand affilié à l'université de Bonn estiment dans leur étude que l'épidémie aurait été encore plus meurtrière si le taux de participation avait été plus important. Bref, si l'on comprend bien, plus les gens ont voté, plus ils ont contaminé les autres. Et s'il y avait eu davantage de votants, on aurait eu davantage de décès. Alors, heureusement qu'ils ont fait des études, hein, parce que nous, on n'aurait jamais pu deviner cela tout seul. Encore deux qui n'en ont pas raté une. Alors, sur Facebook, Marion Maréchal, la nièce de l'autre, s'est exprimée sur la mort de George Floyd et sur les violences policières au cœur des débats ces derniers jours. L'ex-députée FN du Vaucluse, et nièce donc de sa tante, fille de, du grand-père, a affirmé ne pas avoir à s'excuser, je la cite, « en tant que blanche et en tant que française, ne pas avoir à s'excuser du décès de l'Américain ». Très bien, ok, sauf qu'en fait personne ne lui a rien demandé. Et alors dans la famille FN, on demande le grand-père Jean-Marie qui sur BFM révèle, je le cite, « je ne crois pas qu'il y ait eu plus de racisme dans la police française ou la gendarmerie qu'ailleurs ». Fin de la citation. Alors voilà la révélation du père Lagégène en Algérie. N'a pas manqué de faire réagir Yann Brossa, élu de Paris sur Twitter, je le cite, « il ne manque plus que l'avis d'Émile Louis sur la protection de l'enfance ». Fin de la citation. On va aborder notre deuxième pause avec Renaud, qui chante la ballade de Willy Brouillard. C'est l'histoire d'un flic en banlieue. Écoute, on se retrouve après pour notre rubrique suivante.
C'est la nuit sur la banlieue. Willy ouvre enfin les yeux, il s'était pioté à l'aube. Peut-être un peu fracasse, il se lève, se lave, se fringue. Son blouson et son flingue, il a mal aux cheveux, tant pis. Le v'là parti, ronde de nuit. Baston au voltigeur, pas bon, j'irai tout à l'heure. Je fais pas le poids tout seul, sans les potes, puis j'ai pas mes menottes. Direction l'Intermarché, hier soir ils l'ont pillé, rien à signaler, tout est calme, y'a rien qui crame. Ronde de nuit. Au milieu des barbares, drôle de vie pour Willy Brouillard, le flicard. Quand il était petit, il voulait faire gardien de square comme son grand-père. Voulait vivre entouré de minots, protéger les pelouses, les moineaux. Il vit entouré de béton, au milieu d'une jungle à la con. Il protège l'État, les patrons, ceux qui refourguent la canne au niston. Pourquoi il a choisi la loi par les bandits? Pourquoi son vieux l'a déshérité quand il a signé la jamais fait de mal à une mouche, même à une noix, une louche. La choisie entre deux galères, celle où tu bouffes ronde de nuit sous les néons blafards. Drôle de vie pour Willy Brouillard, le flicard. On va quand même pas pleurer, y'en a des plus paumés. Où t'as vu que j'allais faire une chanson à la gloire d'un poulet? Ça serait vraiment le monde à l'envers, le fond de la misère. Est-ce qu'on peut mettre de la musique sur la vie d'un flic?
Reprend donc notre émission Revue de détail pour la dernière rubrique, la rubrique humour. Alors à Paris, une école de pêche et une association animaliste se disputent la darse du Rouvray, située à Paris 19e. Petit rappel historique, il y a 5 ans, un Parisien, Aurélien Fio, a créé Naturlich Academy, la seule école de pêche de la capitale. Aujourd'hui, il se bat pour éviter sa disparition. L'avenir de l'association est en effet lié à celui de la darse du fond de Rouvray. C'est en fait sur ce bras mort du canal de l'Ourcq, derrière la grande halle de la Villette, que Naturlich Academy accueille chaque année près de 500 pêcheurs, en majorité des enfants, à travers des cours ou des ateliers avec les écoles, les centres de loisirs ou les associations de quartier du nord de Paris. Mais si le lieu est un bon endroit pour l'activité, il l'est aussi pour les animaux. Et selon Paris Animaux, Zoopolis, l'association PAZ, une association très active, une association animaliste, qui a monté un projet de sanctuarisation de la darse de Rouvray. Elle souhaite en faire une réserve protégée pour les animaux des villes, et notamment deux cygnes et leurs bébés. Le dossier a même été envoyé à François Dagneau, le maire d'arrondissement, mais aussi à la maire de Paris, Anne Hidalgo, et son adjointe en charge des espaces verts et de la biodiversité. La bataille ne fait donc que commencer. Qui gagnera? L'enjeu du deuxième tour, le 28 juin, il serait même intimement lié. L'avenir se joue entre écailles et plumes. Décidément, à Paris, la politique est un art bien difficile. Alors, on a appris que Philippe Devilliers accusait le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de l'avoir empêché de venir à C'est à vous. Le dernier titre de Devilliers, Les Gaulois réfractaires, demande des comptes au Nouveau Monde, c'est le dernier ouvrage de l'ancien député européen vendéen, aussi surnommé le fou du puits. Alors que cet immense écrivain devait être présent le 11 juin dernier sur le plateau de l'émission, c'est sur Twitter qu'il a annoncé son absence. Je le cite. « Je viens d'apprendre que mon invitation chez C'est à vous ce soir vient d'être annulée par le CSA au motif que mon propos mérite la censure. » Voilà la France d'aujourd'hui, après le masque, le bâillon. Nous sommes au bord de l'abîme, a-t-il ajouté horrifié, de constater que la France est devenue, je cite, un village global unifié et sans frontières. Fin de la citation, ben pas moins. Et, Devilliers, de conclure, mon livre est interdit sur France 5, qui est une chaîne de service public payée par les impôts des contribuables. La censure d'un livre est une grande première. Chacun mesurera la portée, a-t-il lancé avec rage, pardon, avec grande ire. Eh bien, chers amis, le monde littéraire ne s'en remettra assurément jamais. Et pour finir cette dernière minute qui ne manque pas à son pesant, Jean-Marie Bigard ne veut plus être président. Et non, plutôt. Je n'y connais rien en politique, a-t-il déclaré au magazine Society. Ben, franchement, entre nous, hein, mieux valait qu'il l'avoue, personne ne s'en serait douté. Eh bien voilà, on finit toujours avec notre hommage aux soignantes et aux soignants, soignantes et soignants qui ont manifesté dans toutes les rues de France, de Paris et de province hier, donc 16 juin, avec succès. Eh bien, soignants auxquels on associe aujourd'hui les routiers, qui eux ont assuré les livraisons dans des conditions sanitaires parfois très hasardeuses. Nous leur dédions à la radio et à l'émission Revue de détail la chanson de François Béranger, Canal 19. On va l'écouter, donc je vous dis moi bonsoir et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h.
Obsédés du fret sont jamais à la fête. Tout seul dans la cabine ont trouvé la combine pour pas crever d'ennui, pour éviter le fossé et les pièges des flics. Branche ta cible, je t'appelle sur le canal 19. Salut tous les amis. Salut les gars, quoi de neuf sur le canal 19, regardez les amis. C'est pas le Nevada, c'est pas la Californie, ouais. Pas plus le Tennessee, c'est partout dans ce pays. Sur l'autoroute A6, sur la nationale 10, des milliers de camions qui tournent jour et nuit. Branche ta cible, je t'appelle sur le canal 19. Salut tous les amis.
Appel général en fréquence, appel général en fréquence. Sur les stations de Turbo 34, Turbo 34. Est-ce qu'un mille passe à vos copies pour faire un petit gastronomique en compagnie d'une hydrogène là à vous?
Les mecs ont les lunettes noires, des maillots de débardeur, et le coude à la portière, les yeux sur le compteur. Pousser jusqu'à 10 kilos, trouver le bon rapport, être à l'heure déchargé, le pognon se fait rare. Branche ta cible, je t'appelle sur le canal 19, salut tous les amis. Salut les copains neufs, sur le canal 19, répondez les amis. Les routiers galériens, pour pas perdre les pédales, se racontent leur vie, ne remontent pas à vie. Il y a du fret à Marseille, mon patron est un con. Je me fais 4000 francs par mois, je rentre jamais chez moi. Branche ta cible, je t'appelle sur le canal 19. Salut tous les amis. Salut les coquins neufs sur le canal 19. Répondez les amis. Se met à faire la gueule et à être jaloux. Paraît qu'on l'a violé. Les secrets, la défense, on est des subversifs. Dès que les gens communiquent, y a le pouvoir qui flippe.
très si vite je t'appelle sur le canal 19. Salut tous les amis. Salut les coquins neufs sur le canal 19. Répondez les amis.
Et sur votre 4, qui appelle le plus 30, qui appelle le plus.